bord.
Les passagers de Aaron Show sont priés de monter à bord.
Aaron Show a pris son équipage de pilotes en bon voyage. Attachez votre cœur au sous-titrage.
Bon voyage, monsieur. Bon voyage, madame. Bienvenue à bord.
Bienvenue tout le monde, ici c'est votre commandant de bord Roger Montu, la voix de l'Amérique en direct de Washington, la capitale américaine. Comme d'habitude les amis, vous savez que nous décollons pendant toute une heure ensemble avec vous, les passagers les plus respectés de RM Show. Restez avec nous parce que vous savez, chaque soir c'est dans une ambiance des plus exaltantes. Attachez alors vos ceintures de sécurité tout de suite, c'est pour une destination que vous connaissez, c'est l'Afrique. Let's go. Bien sûr, au cours de notre périple radiophonique de ce soir, vous retrouverez comme d'habitude nos segments habituels, agrémentés de rencontres exceptionnelles, des réactions aussi à notre sujet de cette semaine. Et bien sûr, pourquoi pas, un invité de marque ce soir, notre collègue Antoine Bolamba, qui vient de se joindre à nous, rejoindre l'équipe de VO Afrique ici à Washington. Il travaille pour notre service, dans notre service Lingala, ici dans notre service, et d'ailleurs il sera notre invité. Jean-Louis Mafema déjà avec moi. Jean-Louis, bonsoir. Antoine sera avec nous dans quelques instants, il est en route là, il sera avec nous. C'est un grand plaisir, on aura beaucoup de questions à poser à Antoine Bolamba qui vient de rejoindre l'équipe Lingala, n'est-ce pas?
Absolument, absolument, oui, on aura beaucoup de questions pour lui. Mais déjà, il nous bat déjà, il est en costume cravate.
Ah ouais, il m'a dit, Roger, moi je viens cravaté parce que RM Show n'est pas d'une petite émission. J'ai dit, mais sois à l'aise.
Sois à l'aise aussi.
Bah ouais, ouais. Bah il dit, moi je suis à l'aise seulement en cravate.
En cravate,
moi,
ok, mais c'est bien.
Un bon Congolais, c'est l'essentiel.
On voilà. Fera en sorte à ce qu'il enlève la veste.
Exactement.
À la moitié du chemin.
À moitié, ouais, ça c'est sûr. Mais en tout cas, n'oubliez surtout pas notre sujet de la semaine. D'ailleurs, on va aussi poser cette question à notre collègue Bolamba aujourd'hui. Les gouvernements devraient-ils réguler davantage les médias sociaux pendant, j'ai dit bien pendant, les périodes électorales? C'est la grande question cette semaine que vous avez proposée et en débat. Ce sujet, on en parle dans la quête du pouvoir. L'utilisation stratégique des moyens de communication est aujourd'hui incontournable, on l'a dit depuis lundi. Plutôt que de simplifier l'influence d'Internet en termes positifs ou négatifs, il est impératif de saisir la nature ambivalente, on l'a dit, de cette technologie qui a aussi, comme Jean-Louis le disait hier, des côtés positifs et aussi des côtés négatifs. En tout cas, cette semaine dans RM Show, on se focalise sur les impacts de la révolution numérique en mettant particulièrement à lumière le rôle des réseaux sociaux. Et c'est très important, Jean-Louis, pendant la période électorale en Afrique aujourd'hui, on le disait hier, mais même ici aux États-Unis, c'est pas seulement en Afrique, mais on voit l'impact, on sent l'impact des réseaux sociaux aujourd'hui. On a vu pendant la, chez nous ici au State, on a vu pendant la campagne de Obama, comment Obama avait même lui-même bien utilisé des réseaux sociaux à son avantage aussi. Et c'est devenu, un outil, je pense.
Oui, mais tu sais, c'est un peu comme aujourd'hui, tu sais, beaucoup de jeunes artistes arrivent à s'autoproduire à cause des réseaux sociaux. Ils mettent leur musique, ça devient viral et ça part.
Oui.
Les politiciens aussi, il y en a qui, quand ceux qui savent bien l'utiliser en matière de communication, ils peuvent parler à beaucoup de gens et atteindre des couches même très éloignées.
Oui.
Tu vois, c'est, au fait, ce sont des technologies qu'on on devrait prendre avantage de ça pour faire beaucoup de bonnes choses.
Ouais, ouais,
tu vois, et oui, parce que ça te permet. Quelqu'un qui est, par exemple, au Mali, et qui, si les Maliens voient ici, à partir de là-bas, il peut faire des vidéos, montrer à ceux qui sont ici ce que lui va faire là-bas, pour leur faciliter la tâche quand ils vont au Mali ou quand ils rentrent au Mali, par exemple.
Ouais. Ça, c'est un bel exemple.
Oui, qu'ils arrivent à comprendre le programme de cette personne, et puis ils disent, j'adhère à ce programme-là parce que ça va m'aider aussi. Tous ces moyens-là existent aujourd'hui qu'il n'y avait pas à l'époque.
À l'époque.
Oui. Ouais. À l'époque, c'était très difficile, il fallait avoir des gros moyens.
Je suis content que tu sois en train de parler ainsi. Je te laisse continuer parce que je dois rappeler à nos auditeurs que Jean-Louis, c'est un informaticien d'abord de formation, donc il sait de quoi il est en train de parler.
Oui, absolument. Ce sont des choses, ça devrait faciliter la vie. Et ça ouvre le monde, ça le rend plus petit. C'est-à-dire que les politiciens dans les pays africains, quand vous avez une diaspora ici et qui vote, mais c'est un moyen de communication incroyable pour leur dire, écoutez, ici au pays, voilà ce que nous faisons. Et si vous venez vous joindre à nous, voilà ce que nous pouvons faire ensemble. Tu vois, vous pouvez déjà vendre ce message-là assez facilement. Tu vois, ça, c'est une bonne manière. Et bien sûr, faire sa propagande, montrer ce qu'on est capable de faire. Ça, c'est le côté positif.
Le côté positif.
Ouais. Alors, l'utiliser du côté négatif, alors, en fin de compte, ça
ne balance pas trop l'idée principale même de l'utilisation de ces réseaux sociaux.
D'où, comme on le dit, moi je pense, ce sorte de contrôle, ce contrôle, la régulation de ce qui peut être fait dans les réseaux sociaux, tu vois. En termes de promotion, en termes de choses, c'est important, quoi.
Ouais.
Mais il y a aussi, il faut bien sûr que on essaie d'éviter les aspects négatifs, au fait.
C'est ce qu'il faut vraiment éviter.
Ouais, oui, c'est ce qu'il faut éviter, ouais.
Mais alors moi, laisse-moi te poser cette question parce que tu es quand même expert en ça. Je te connais, ça fait 10 années, plus de 30 ans que je te connais. Avant de travailler dans le journalisme, tu étais beaucoup plus dans l'informatique. Je sais de quoi je parle. Alors, comment éviter ce côté négatif? Pendant la période de campagne, qu'est-ce que ces candidats ou ces commissions d'élection, whatever, ou bureaux qu'on les appelle, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour éviter effectivement les fake news qui sont propagées sur les réseaux sociaux?
Au fait, ici, par exemple, dans les pays européens, j'ai remarqué, américains, etc. et tout, ils ont été au Parlement et ils ont voté des lois. En fonction des, parce que c'est nouveau, ça arrive. C'est quelque chose qu'ils n'avaient pas connu avant. Et il faut créer des nouvelles lois chaque fois pour commencer à contrôler.
Donc tu penses que les lois et qui contrôlent ça d'abord, qui régulent, voilà.
Parce qu'il y a ce qu'on va appeler ici la diffamation.
Oui.
Tu racontes des choses sur quelqu'un qui ne sont pas vraies, tu réponds ça sur les réseaux sociaux et on a une mauvaise image de la personne.
Bien sûr.
Donc quelque part, nos gouvernements devraient être en mesure de pouvoir dire, écoutez, il y a certaines choses qui peuvent être dites, d'autres pas. Et quand vous le dites, peut-être il faudrait qu'on trouve un moyen de sévir, soit on ferme votre station votre moyen de distribuer ces informations, peut-être
je pense que tu as tout dit. Écoutez, nous revenons dans un instant, on va redécoller bien sûr en musique comme on le fait chaque soir entre 20h et 21h temps universel. On vous a dit aussi au début que notre invité sera là dans quelques instants, notre collègue Antoine Boulamba de VOA Afrique sera avec nous pour aussi continuer cette discussion. N'oubliez surtout pas que vous pouvez aussi réagir à notre sujet de cette semaine au +1 703 350 37 31, encore une fois c'est au +1 703 350 37 31. Chaque mercredi c'est Country Music dans RM Show. Let's go.
Couple cans on cool and the needle on full in a countryside. Yeah, hot little playlist of your favorite songs. And when I get you climbing up in the cab of this truck, yeah, you know it's on, know it's on. Know you inside of these two lanes you've never seen. Heating it up behind a highway. Ooh, baby, you and me. Just running that crazy. To show you one hell of a night. So give me that all, yeah. And take me there, love. I'm a sucker for your kiss. Wanna steal them from your lips, baby, like a truck. A foot heavy on the floor. In a lifetime, blowing your mind, burning down these back roads. You're inside of these two lanes.
Et voilà les amis, vous écoutez RM Show, une émission de Vieux Afrique en direct de Washington DC, la capitale américaine. On parlait effectivement dit mon collègue Antoine Roger Bolamba qui vient se joindre à nous. Antoine, c'est un grand plaisir. En tout cas, j'annonçais au début déjà de l'émission qu'on allait recevoir un grand dans le journalisme, un grand aussi qui vient de rejoindre l'équipe de VOA Afrique. Et c'est un honneur de parler de vous ce soir.
Merci beaucoup Roger Montou, vous savez, vous êtes grand, vous aussi.
Merci beaucoup, merci à vous aussi. Alors pour ceux-là qui ne connaissent pas, Antoine Roger Bolamba, qui est Antoine ?
Antoine Roger Bolamba, comme je suis pratiquement journaliste et actuellement la VOA m'a engagé comme journaliste international multimédia. Alors je fais des études des communications sociales avec focus justement au journalisme et public relations. Là c'est dans mes propres recherches.
Exactement.
Mais je suis expert des médias, ouais. Donc c'est-à-dire formé par la haute autorité des médias à l'époque, aujourd'hui devenu Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Ouais. C'est-à-dire, c'est nous qui avons managé les premiers journalistes à être formés pour gérer, faire ce qu'on appelle la régulation des contenus de médias.
Ah, wow.
Vous voyez un peu, voilà, on était une centaine de candidats, mais j'étais parmi les 10 retenus, vous voyez.
C'était nouveau dans le temps.
À l'époque, c'était nouveau. Ouais. Vous voyez, nous sommes en 2005, pratiquement, 2003-2005, en République démocratique du Congo. Vous voyez, dans les contextes non seulement du pluralisme démocratique, aussi à l'époque de l'élection Joseph Kabila avec les 4 vice-présidents, Jean-Pierre Bemba et les autres.
Exactement.
Donc bref, je travaillais comme expert des médias, donc observateur analyste. Ouais. Nous étions en train, notre travail c'était faire le monitoring, c'est-à-dire le contrôle des contenus pour que ça réponde aux normes, vous voyez, du processus électoral, pour que ça ne perturbe rien du tout.
Ouais.
Voilà, là c'est mon côté en tant qu'expert, en tant que journaliste, je vous ai dit, mon travail, c'est collecter les informations, traiter, diffuser, vous voyez un peu, suivant un certain nombre d'angles de la rédaction. Vous voyez. Et mon troisième côté, c'est que les gens peuvent savoir de moi, je suis aussi consultant en relations publiques.
Ah,
c'est-à-dire tout ce qui concerne l'image, la réputation, vous voyez, d'une institution, d'un individu, d'une institution, en tout cas, travailler avec les médias pour améliorer, soigner l'image
même d'une institution.
En tout cas, consultant en ça et
ce côté individuel avec qui vous travaillez, des politiciens, des artistes, ou n'importe qui.
C'est une bonne question. Je peux travailler avec n'importe qui, mais en tout cas, je suis focus à ce qu'on appelle political PR or PR politics. J'ai plus travaillé avec des opérateurs politiques, les aider à soigner leur image, mais aussi à les aider dans leur relation avec les médias, avec les journalistes.
En parlant de soigner l'image d'un politicien, par exemple, qu'est-ce que vous avez remarqué, Antoine Roger-Bolamba, dans, prenons un cas d'un politicien lambda qui n'est pas bien organisé. Qu'est-ce qu'un politicien doit vraiment, qu'est-ce que ce politicien doit soigner?
Ce qui est vrai, c'est qu'un politicien, c'est d'abord un leader.
Oui.
Ils ont pas mal de choses à faire. Et ils sont peut-être, ils n'ont peut-être pas le temps de prêter attention à leur communication, à ce que les gens pensent d'eux. Parce que, en fait, les relations publiques, c'est quoi? C'est justement avoir le miroir de savoir se regarder, ce que les gens disent de vous, ce que les gens pensent de vous. Parfois, on est incapable de le savoir. Vous êtes opérateur politique, vous ne faites que communiquer dans un sens unidirectionnel. Vous voyez? Or, la communication, c'est aussi le feedback.
Le feedback,
vous devez écouter. Et on dit que la personne qui sait communiquer mieux, de plus, c'est la personne qui sait écouter. Un opérateur politique, en réalité, c'est quelqu'un qui doit être là à l'écoute.
À l'écoute d'abord.
De ce que les gens pensent de
lui. Pas nécessairement parler.
Non, là, ça va pas marcher. En réalité, quand on parle, on doit parler pour répondre à une question. On ne parle pas pour parler. Vous voyez un peu. Et vous allez répondre à quelle question? Vous voyez, nous, en tant que journaliste, en tant que communicologue, quand quelqu'un parle, il répond à quelle question, celui-là. Vous voyez, alors, vous devez, en tant qu'opérateur politique, ne parler que après avoir écouté ce que les gens pensent. Et le courroie de transmission, le relais, voyez, ça se passe par les relations publiques. C'est-à-dire quelqu'un qui est là pour être en contact avec le public à travers les médias, avec les journalistes, pour justement vous faire parvenir ce que les gens pensent de vous, l'opinion des gens. Après, les relations publiques tournent autour de l'opinion, de la représentation mentale, de l'imaginaire, la représentation sociale, des stéréotypes, des préjugés. Toutes ces choses-là, les idées que les gens se font de vous, en tout cas, votre chargé des relations publiques est là pour filtrer tout cela.
C'est très important.
Et à travailler avec des journalistes.
OK.
Vous voyez, aucun opérateur des relations publiques
ne peut pas ne pas travailler avec
les journalistes. Non, non, non. Ça passe toujours avec les médias.
C'est-à-dire, qu'est-ce que cet expert en relations publiques, comment il travaille avec ses journalistes?
En tout cas, tout spécialiste en relations publiques est en contact avec les médias. C'est quelqu'un qui connaît le paysage médiatique au niveau local, national comme international. C'est quelqu'un qui est suffisamment connecté et introduit. Pourquoi? Parce que nous avons pratiquement les mêmes formations avec les journalistes. Vous voyez un peu la formation journalistique. Si vous voyez les débuts là, ça va ensemble. Vous voyez, ça se diversifie seulement à un certain moment.
Exactement.
Parce que un opérateur des relations publiques, bien spécialisé des relations publiques, doit travailler un peu comme dans un cabinet. Vous voyez, pour une institution, une organisation, bien une personnalité. Vous voyez? Alors qu'en tant que journaliste, vous devez être neutre. Vous voyez un peu? C'est-à-dire travailler avec tout le monde.
Avec tout le monde.
Sans parti pris.
Très, très, très bien. Waouh! Là, on a été, moi, je pense que c'est une classe pour moi ce soir. Notre sujet de cette semaine, Antoine Roger, la grande question qui nous a été proposée par nos auditeurs, c'est les gouvernements devraient-ils réguler davantage les médias sociaux pendant les périodes électorales? Ils ont été plus précis en précisant pendant les périodes électorales.
Absolument oui, absolument oui. Oui, bien sûr. Et ça se passe, je pense, partout à travers le monde, dans des pays qui ont suffisamment cette information. Mais je pense que c'est introduit, même en Afrique. Vous voyez, je viens de la République démocratique du Congo, je vous ai dit. Et en 2005, j'ai travaillé comme expert analyste des médias, du contenu des médias, pour le centre d'écoute et des monitoring. Vous voyez, là où les gens qui font le contrôle du contenu, on appelle ça le centre d'écoute et des monitoring de la haute autorité des médias. Maintenant, c'est le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Et je salue aussi, en passant, le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, même le centre d'écoute et de monitoring de la République démocratique du Congo, en l'occurrence. Pourquoi? Parce que nous avons été la première promotion de faire ça. Mais je viens de faire ça aussi, de former des experts qui vont, pendant ce processus électoral en RDC.
C'est qui est là-bas en ce moment?
C'est le président Bossembe.
Christian Bossembe,
c'est le président. Et il y a aussi un haut conseiller, comme on les appelle maintenant là, mais à notre époque, il était le coordonnateur du centre d'écoute et de monitoring, grand en journalisme, mais aussi en contenu des médias, bien vous voulez, en monitoring. Ils s'appellent Banza Tifolo. Ils sont encore là.
Christian Bossé est passé ici. On s'est vu seulement dehors. Il devait venir nous voir à la VOA, mais il était là le week-end. On n'était pas ouvert, mais on s'est vu à Washington vite fait.
Nous les saluons en tout cas par ça. Il a beaucoup de travail parce qu'il
a beaucoup travaillé.
Pendant ce processus électoral, il y a deux institutions en République démocratique du Congo, par exemple, qui font le grand travail. Il y a notamment le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, mais aussi il y a la CENI. La CENI s'occupe de toute l'organisation matérielle et tout du processus électoral.
Exactement.
Mais tandis que le contrôle des communications, surtout à travers les médias, c'est le travail du Conseil supérieur de l'audiovisuel
et de la communication.
Et comme vous savez, tout candidat a besoin de communiquer.
Oui, bien sûr. Mais
Ils vont utiliser généralement les médias.
Les médias.
Alors, ils vont étudier les réseaux sociaux, y compris les réseaux sociaux. Vous voyez un peu. Alors, il y a généralement un document qu'on appelle le vademécum des délits des presse. En fait, c'est un document qui vulgarise tous les délits des presse. Vous voyez, et tout expert en communication est formé en cela.
Ouais.
Moi aussi, j'ai été formé en cela.
Formé
vous savez que pendant cette période, il y a des propos qu'on ne peut pas débiter, qu'on ne peut pas dire, qu'on ne peut pas sortir dans les médias. Vous voyez, parmi ces propos, je dois vous lire rapidement.
Bien sûr.
La réglementation ou bien la régulation des médias ou bien des réseaux sociaux consiste à créer des règles et des normes pour les plateformes de médias sociaux afin de garantir qu'elles sont transparentes. Mmh. Responsable et responsable dans la gestion du discours en ligne, notamment parce qu'on parle des réseaux sociaux. Mmh. Mais quel est l'objectif de la réglementation ou bien de la régulation? Ça vise à freiner la propagation de contenus préjudiciables tels que la désinformation. Ça, c'est de 1. Mmh. Les discours de haine et l'extrémisme et à protéger les droits et les intérêts des utilisateurs tels que la vie privée, la sécurité, la liberté d'expression. Vous voyez, la réglementation peut impliquer la législation et la surveillance et l'autorégulation par les plateformes elles-mêmes, comme on a dit. Vous voyez, en journalisme, par exemple, parce qu'on en parle, nous avons des organisations des journalistes.
Oui.
Et ce sont ces organisations-là qui font généralement l'autorégulation. Et nous sommes dans les réseaux sociaux, parce que nous en parlons aussi, les créateurs même des réseaux sociaux eux-mêmes, ils font de l'autorégulation. Je pense que si vous diffusez un certain nombre de choses sur YouTube, sur Facebook, qui ne cadrent pas avec leur ligne, leur politique éditoriale, ils vont vous bloquer. Vous voyez un peu, c'est ça l'autorégulation. Alors, maintenant, la régulation dans le sens général, c'est le gouvernement qui est censé mettre en place des structures pour faire le monitoring, c'est-à-dire le contrôle des contenus de chaque média. Vous voyez. C'est un exemple que je vais donner peut-être aux auditeurs qui doivent nous comprendre. Dans un centre d'écoute et de monitoring, on a toutes les télévisions, toutes les radios, tous les journaux. Vous voyez, alors, les difficultés maintenant, c'est avec les médias en ligne, avec la diversification, comme je vous ai dit tout à l'heure. Plus ou moins 18.
18. Et on en parle dans un instant, Antoine Roger. Reste là, on va continuer avec le programme. Ça, c'est très intéressant, ce que Antoine Roger est en train de nous raconter ce soir. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. C'est au plus 1-703-350-37-31. L'anglais, c'est aussi chaque soir entre 20h à 21h, temps universel, avec Michel Joseph. L'anglais, c'est tout de suite. Voilà, si vous voulez apprendre l'anglais comme on le fait, bien sûr, prenez note de notre teacher, Michel Joseph. Hello, Michel.
Hello, Roger.
Salut, Roger.
Hello, everyone.
Bonjour, tout le monde.
The word of the day.
Le mot du jour.
Strong. S-T-R-O-N-G.
Fort, solide, puissant.
He's a strong man.
C'est un homme fort.
She's a strong woman.
C'est une femme forte.
It's a strong idea.
C'est une idée puissante.
Give me a strong hand. I need to push this closet.
Prête-moi main forte, j'ai besoin de pousser cette armoire.
You are the strong voice in this movement.
Tu es la voix dominante de ce mouvement.
You are my strong support in this process.
Vous êtes un fort soutien dans ce processus.
Back to you, Roger.
Thank you very much. Back to us. Thank you, Michel Joseph. Thank you à tous ces étudiants qui apprennent l'anglais grâce à notre professeur Michel Joseph. N'oubliez surtout pas que toutes ces leçons sont aussi sur notre site www.voafrique.com. Place à présent à notre segment news. Hein, oui, parce que vous devez aussi être informé. Donc, 60 secondes, quand sais-je. 60 secondes des news, c'est tout de suite. Notre VOA 60 ce soir, c'est avec Jean-Louis Mafema.
Au Mali, la justice a lancé une enquête ciblant des chefs locaux d'Al-Qaïda et six responsables rebelles Touareg pour actes de terrorisme, financement du terrorisme et détention illégale d'armes de guerre. Parmi eux, Iyad Agali, chef du GSIM, et le prédicateur Amadou Koufa, dirigeant de la Katiba Massine. L'Union européenne annule sa mission d'observation électorale en RDC, invoquant des raisons techniques. L'UE avait déclaré que ses observateurs électoraux arrivés en RDC n'ont pas pu se déployer à travers le pays pour des raisons de sécurité. En Afrique du Sud, Lumise Nzuma, considéré comme un des instigateurs des émeutes qui ont enflammé le pays en juillet 2021, a été condamné à 12 ans de prison ferme. Ces émeutes avaient fait plus de 350 morts. Au Kenya, la justice a tenu une première audience sur le meurtre d'Agnès Wanjiru, une jeune femme d'un soldat britannique accusé d'avoir été tué en 2012. Son corps sans vie avait été retrouvé dans une fosse septique à Nanyuki. L'audience a été renvoyée à mai prochain.
Et voilà, merci beaucoup à notre collègue Jean-Louis Mafema. On atterrit lentement avec ce morceau Country Music. Nous revenons dans un instant. On va à présent écouter John Party, When I've Been Drinking.
I was a little out of my mind last night when I called you up. Sorry if I upset you with all that missing stuff. I was just too far gone and all alone when that phone started calling your name. And I know it's against the rules, girl, but tequila makes me do dumb things. I was just drunk. We're
écoutez VO Afrique en direct de Washington. Ici, c'est votre commandant de bord, Roger Muntu, la voix de l'Amérique en direct de la capitale américaine. Bien sûr, on est ensemble avec notre invité Antoine Roger Bolamba, notre collègue de VO Afrique. N'allez nulle part ailleurs. Nous allons continuer en deuxième partie de RM Show, la partie la plus importante avec plus de discussions. Nous allons aussi écouter certains de vos commentaires. Pourquoi pas vous lire aussi. God bless. Peace Africa.
Vais dormir sem ouvir o RM? Não faças isso. Todos os dias, à noite, boa música. É no show do RM. Não perca.
Lerida RM Show Katir.
RM Show est venu gagner au Giza et le monde musique Giza. Tout le monde est calme.
Les amis branchés sur la voie de l'Amérique d'un pays d'Haïti, pas raté. Bon, ça, chaque après-midi avec Roger Muntu, RM Show, son avion d'un bon pilote et qui toujours atterrit en sûreté avec bonne musique et toute sa dame. Roger Muntu, RM Show, sur la voie de l'Amérique. Bienvenue. À part de suite, on a ce qu'il y a à tout. En tout cas, RM Show, la liste à coup, ça va. À part, on a tout à cité. À part.
Oyo, je se mets la parade de RM Show, Bané.
Chers passagers de RM Show, on décolle.
Hey, this is RM Show.
This is RM Show, let's go les amis, ici c'est Roger Muntu, voix de l'Amérique en direct de Washington, la capitale américaine. Cette émission que vous captez chaque soir entre 20h et 21h temps universel, la question de cette semaine que nous débattons bien sûr, les gouvernements devraient-ils réguler davantage les médias sociaux pendant les périodes électorales? Et bien sûr vous êtes nombreux à avoir réagi sur les réseaux sociaux, on en parlera, on va lire certains commentaires. On l'a dit depuis lundi, dans la quête du pouvoir, l'utilisation stratégique des moyens de communication est aujourd'hui incontournable, on le sait tous, nous sommes tous d'accord. On l'a vu en Afrique, on l'a vu ici aux États-Unis, on l'a vu en Europe, en Asie, qu'en sais-je. Plutôt que de simplifier l'influence d'Internet en termes positifs ou négatifs, il est impératif, d'après beaucoup des experts qui nous ont écrit, il est très important de saisir la nature ambivalente de cette technologie. Alors cette semaine, dans RM Show, on se focalise sur les impacts de la révolution numérique en mettant particulièrement en lumière le rôle des réseaux sociaux. Très important, nous parlons non seulement du côté positif, mais aussi du côté négatif. Et Antoine Roger Bolamba, notre collègue qui vient de joindre cette grande équipe de VO Afrique et qui travaille aussi dans notre service Lingala, qui vous savez tous, hein, qui est parlé en RDC parce que vous aimez la musique congolaise. Bien sûr, Antoine Roger Bolamba, parce qu'on parle aussi un peu musique ici avant de continuer avec notre sujet. On a vu ce que l'artiste Fally Ipupa a fait récemment. Mais bravo à l'artiste, hein.
Bravo à l'artiste, ouais. Tu sais, Fally Ipupa a démontré qu'il a vraiment du talent, voyez, et que son talent c'est naturel, voyez. Et quand on voit son parcours, depuis qu'il a commencé à se faire voir au monde, à travers le quartier latin, on ne pouvait pas imaginer que c'est ce Fally là qui pouvait faire ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Voyez un peu, c'est vraiment un grand. Moi, je l'appelle
Voyez,
parce que ce qu'il a fait dernièrement, avec le monde qui a participé à son concert, je pense que Fally, c'était un grand leader d'opinion aujourd'hui.
C'est un grand leader, d'ailleurs. Merci à Michel qui nous montre l'image de Fally Ipupa qu'on essaye de joindre. Ça fait plus d'une semaine qu'on l'a pas.
Oui, Fally Ipupa.
Je le comprends, il doit être très occupé.
Occupé, mais parfois vous voyez nos messages. Fally réagit. Moi, j'ai monté à tenter de vous atteindre. Moi, j'ai tenté. Fally Ipupa, essayez de faire quelque chose. Nous avons besoin de vous.
Parce qu'il y a beaucoup de fans qui écoutent, qui essayent effectivement de.
Effectivement.
Alors, Michel a essayé, elle a même laissé le message.
Voyez, il vient de recevoir un certain nombre de prix, des trophées, vous voyez, ça s'est suivi comme ça.
Exactement.
Fally Ipupa, donnez-nous l'opportunité d'en parler.
Ben oui, si vous êtes en train d'écouter Fally, en tout cas, c'est allez-y.
C'est un stratège aussi en matière de médias, l'utilisation des réseaux sociaux. Hein. Il est très bon, tu vois, à peu près ce qu'il fait en cette matière-là. Vraiment, les autres devraient prendre exemple sur lui, au fait. Tu vois.
Ce qui est vrai, c'est que il y a...
Oui, je prie pour qu'il reste dans cette positivité-là, parce qu'il est très positif, il est très fair-play, positif. Il reste assez simple et ouvert aux gens, donc je crois que c'est une combinaison qui gagne.
Non, il a une grande vision et il a besoin de faire un peu beaucoup de bonnes choses, vous voyez. Vous savez, il est parmi les rares artistes musiciens que nous avons au pays qui a une vision vraiment ouverte.
Ah, ouais,
voyez,
absolument.
Voyez, donc des choses, et vous voyez comment il est en train de manager sa carrière, c'est-à-dire que il a encore un long chemin à parcourir.
Absolument.
Vous voyez, je réfléchissais en regardant ses congénères, les gens qui ont évolué avec lui.
Oui, effectivement.
Mais vous allez voir qu'il a tellement excellé que, vous voyez, parce qu'on ne parle que de lui, on ne peut pas parler aussi d'autres personnes.
Oui, oui, exactement.
Mais en tout cas, c'est quelqu'un qu'il faut soutenir et encourager.
Absolument, absolument.
Oui. Ce qui m'a toujours marqué avec l'artiste Fally Ipupa, c'est que quand tu invites Fally, tu dis, Fally, viens ici à 14h, on a interview. À 13h, il est là.
C'est un monsieur. En tout cas, moi, je ne l'ai pas encore abordé comme ça. Mais de loin, mais Fally, c'est un monsieur.
Je lui ai dit, Fally, plusieurs fois, il m'a surpris. Moi, je me disais, le gars, il va peut-être revenir en retard ou quoi. Il me dit, Roger, à 13h, je suis déjà là. Et moi, je ne suis même pas encore prêt. Mais Fally me dit, mais Roger, qu'est-ce qui ne va pas?
C'est un monsieur. En tout cas, moi, je pense que c'est pourquoi il est en train d'avancer, d'avancer en Afrique et à travers le monde.
Ouais, ouais.
En tout cas, c'est, vous savez, même ses chansons, vous sentez l'inspiration, vous sentez le talent. Vous voyez?
Absolument.
Et quand quelqu'un exploite son talent comme ça, comme Fally, et vous savez, je ne vais pas aller très loin, mais moi j'ai dit toujours, même le paradis est bien préparé pour ces gens-là.
Oui, mais c'est
parce que Dieu ne nous jugera que sur base du talent.
Oui,
voyez. Absolument. Alors si c'est seulement sur base de ça, Fally, je t'ai donné le talent de chanter, qu'en as-tu fait?
Voilà,
mais quand il va dire à Jésus qu'écoutez, j'ai mis plus de 40 000 personnes,
plus de 40 000 personnes.
À You Arena, vous voyez. Il a exploité son talent. Voilà.
Jean-Louis, tu voulais ajouter quelque chose, Julie ?
Non, mais absolument. Moi, je crois que c'est un exemple à suivre pour les autres. Voilà une manière de faire les choses, tu vois. Discipline, la discipline, la persévérance, la simplicité. Et bon, il faut éviter aussi un peu les scandales par-ci, par-là et tout, parce qu'on a un poids à ce niveau-là, on a un poids sur les autres qui comptent sur vous, qui vous regardent, qui disent où est-ce que vous allez aller.
C'est vrai. Parce que vous parlez de scandale, là.
Le scandale, ouais.
Oui, vous savez, je ne sais pas si vous connaissez un certain nombre, mais depuis un certain temps, Fally essaye un peu de se discipliner, entre griffes.
Absolument.
Parce que les scandales découragent. Vous voyez votre artiste que vous aimez bien, on l'arrête aujourd'hui parce qu'il a tapé quelqu'un, parce qu'il a menacé, parce qu'il a volé, parce qu'il a... Ça décourage.
Ça démoralise les
mélomanes.
Les
gens qui vous suivent,
parce que l'image compte, cette image compte par rapport à la manière dont les gens vous voient.
D'ailleurs, parce que vous parlez de l'image, c'est ça encore ce qu'on disait, Roger Montaud, par rapport aux relations publiques. Là, je pense que Fally doit s'être entouré des gens qui lui donnent des bons conseils par rapport à sa réputation. C'est vrai que c'est difficile. Il a toujours des ennemis, il a toujours les gens qui le combattent, là c'est sûr, mais en tout cas, quelque part, il se maintient. Parce qu'il s'est fait entourer aussi des bonnes personnes.
Et donc peut-être ce sont ces bonnes personnes qui... Mais parlons un peu de ce qu'on a vu aussi pendant ce concert, qui est très important. On a vu comment ce concert n'était pas du tout... Le concert de Fally à la Défense Arena a été un événement significatif, mais aussi on a vu la sécurité qu'il y avait autour de cet événement. Ce qui est quand même très important aussi d'en parler, parce que pendant des années, vous le savez, les artistes congolais sont empêchés par les combattants en Europe de prester, mais Fally a pu quand même...
Les artistes et musiciens étaient empêchés de se produire, mais Fally, c'était la personne qui avait bravé cette mesure. Évidemment, c'est vraiment discutable, cette mesure-là. Pourquoi interdire aux artistes de se produire? Fally a réfléchi à un moment donné, il a essayé, ça a créé comme incident, voyez, mais cette fois-ci, je pense qu'ils ont pris des précautions, et Fally, apparemment, c'est quelqu'un qui n'a pas peur. On dirait que c'est quelqu'un qui sait affronter les situations. Voyez, moi, je l'encourage pour cela.
D'accord, on va continuer, on va prendre aussi, je pense qu'on a notre ami Serge Bouïka qui est en ligne. Serge Bouïka, bonsoir Serge, il est au Maroc, il nous rejoint au Maroc en ce moment. Serge, bonsoir.
Bonsoir à Roger Moutou, bonsoir à Jean-Louis Mafema.
Finalement, on a l'image. Finalement, on a l'image de Serge. Merci Michel. Finalement, voilà. Serge, comment ça va au Maroc, hein? Comment tu es traité au Maroc?
Ben, je suis traité comme un petit prince.
Ah, ben ça, c'est bien. Le royaume
chérifien nous offre vraiment un très beau cadre pour non seulement l'apprentissage, mais aussi la quiétude. Et ça nous permet vraiment de nous concentrer sur ce que nous sommes venus faire ici,
du
point de vue scientifique. Mais ça nous permet aussi de le dire ainsi, parce que le Marocain est un peuple très, très accueillant, en tout cas, et très convivial.
Ah ben ça c'est très bien, ça c'est très bien. Et cette formation prend combien de temps, vous avez dit, hein?
C'est une formation de 9 jours. Pratiquement la module théorique a lieu cette semaine. Ces 2 derniers jours, ce sera beaucoup plus les ateliers. Et le lundi, un menu jury, et la défense a lieu le mardi pour clore avec les hostilités.
Ouais. Mais ça, c'est très bien en tout cas. Merci de vous joindre encore à nous. Serge Bouika, on parlait hier de notre sujet de cette semaine. Et bien sûr, vous avez réagi aussi. Le gouvernement devrait-il réguler davantage les médias sociaux pendant les périodes électorales? On vous a eu parce que évidemment vous couvrez aussi, développez aussi à ce sujet souvent. Quel est le rôle actuel, d'après vous, hein, Serge Bouika, des médias sociaux dans le processus électoraux, et en quoi leur pertinence aujourd'hui, si je dois le dire ainsi, découle-t-elle de leur adoption répandue, hein, au sein de la société? L'importance d'abord.
Les médias sociaux dans notre communauté, surtout dans ces contextes d'élections, jouent un grand rôle, dans le sens où ce sont de vecteurs ou de moyens, les principaux moyens d'ailleurs de communication et de propagande pour les différents candidats à tous les niveaux, tant au niveau présidentiel qu'au niveau communal.
Ouais.
Mais la problématique qui surgit ces jours, c'est les mésusages de cet outil de communication dans les chefs de la plupart de nos candidats. Si pas eux, c'est un peu cette équipe de communication. Tout à l'heure, vous parliez du professionnalisme qui caractérise l'équipe de Fally Ipupa dans la gestion de l'artiste et des différents événements. Et c'est presque pareil pour ce qui concerne l'événement qui est le processus électoral, qui sont les élections à venir en République démocratique du Congo précisément, et la gestion de la communication des différents candidats, pour ne pas dire pour l'ensemble des candidats, n'est pas à la hauteur de l'événement et des attentes de la population justement.
Antoine, vous voulez réagir à ce que Serge est en train de dire?
Oui, Serge est en train de dire des bonnes choses. Mais vous savez, la régulation du contenu des médias pendant le processus électoral, comme on a dit, c'est juste appliquer les règles. Le gouvernement a mis en place des règles. En tout cas, je dois dire que son applicabilité. Voyez un peu.
Ouais.
Parce que les règles sont connues. Voyez, je vous ai parlé de ce qu'on appelle le vademécum des délits des presse.
Exactement.
C'est connu. Les opérateurs politiques qui sont candidats, beaucoup de ceux qui sont informés, qui sont préparés, savent que en cette période ici, s'ils lâchent quelque chose de mauvais, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication va lui priver des médias pendant un certain nombre de temps. Maintenant, je ne suis pas en train de sentir cela. Mais revenons en 2005. Voyez, élection présidentielle avec Joseph Kabila, nous sommes en RDC, avec Jean-Pierre Bemba comme challenger et les autres. Vous allez voir que les gens comme, il y a certains ministres, il y a certains opérateurs politiques qui ont été sanctionnés, même journalistes qui ont été sanctionnés de 3 mois, de 6 mois, sans passer à la télévision. Pourquoi? Parce qu'il faut demander à Zakari Bababassoué, il faut demander à Miles Tshibangu, il faut demander aux gens comme son Excellence Passé Chilombo. Toussaint Chilombo-Sand, sont des gens qui ont été sanctionnés par la haute autorité des médias de l'époque. J'ai vu aussi Christian Lossembe en train de faire quelque chose pour essayer de sanctionner et d'avertir ceux qui vont, ceux qui vont justement ne pas suivre les règles tracées pour que l'on ait un processus électoral apaisé. Ce sont ces gens-là qui seront sanctionnés. Vous voyez, je ne sais pas sur le plan de l'applicabilité, on doit voir si y a des choses à dire, mais ce qui est vrai, c'est que la loi existe. Donc nous ne sommes pas dans un terrain tel que vide où il n'y a aucune régulation. La régulation, c'est justement l'application de la loi.
Et là, Antoine, vous parlez de l'application. Je disais tantôt, mais je pense que c'est le rôle quand même du gouvernement de veiller à cette.
Il y a le gouvernement à travers le CSA.
Mais comment? Et je sais que voilà, parce que vous avez quand même travaillé aussi pour cette institution.
Hein, évidemment, c'est ça la même institution que j'ai travaillé pour ça.
Comment pensez-vous que les gouvernements en général pourraient-ils évaluer alors l'impact des médias sociaux sur les élections avant de décider s'il est même nécessaire de réguler davantage ces plateformes?
Vous savez, récemment, j'ai suivi un communiqué du CESAC justement par rapport à cela, qui, vous savez, avertissait aux journalistes ou à quiconque qui diffuserait à travers les réseaux sociaux de messages qui incitent à la haine, au trouble, au désordre, voyez, qu'ils seront poursuivis. J'ai suivi un communiqué comme ça. Donc c'est parce que je sais que réguler le contenu des médias sociaux aujourd'hui, ce n'est pas facile. Voyez un peu.
C'est ce que je me dis.
Ce n'est pas facile et il y a chaque gouvernement qui essaye de faire un effort. Pourquoi? Parce que, comme on a dit, il y a plus ou moins 18 réseaux sociaux et chaque réseau social a sa particulière façon de fonctionner. Alors, s'il faudrait maintenant réguler le tout, je ne sais pas si même dans les pays développés, ils n'ont pas assez de moyens, a fortiori en Afrique. Vous voyez un peu, c'est un travail difficile.
C'est un travail, même
difficile.
Ici aux États-Unis, c'est difficile. Un travail.
Parce que moi, je trouve qu'il y a le problème, aujourd'hui, je trouve qu'il y a des journalistes qui ne sont plus journalistes. Ils sont journalistes que de nom, au fait. Ils sont à la solde de quelqu'un. Vous voyez. Alors, tout ce qu'ils sortent, et biaisé au départ, ça cause.
Jean-Louis m'a fait là justement, il faut les appeler les propagandistes. Vous savez, un journaliste reste un journaliste. Point. C'est-à-dire que quelqu'un qui reste neutre.
Neutre.
Vous voyez. Mais quand nous voyons, c'est que même il y a un mouvement qui est sorti là. Finalement, aujourd'hui, ils se sont retrouvés là, députés, toutes ces choses-là. C'est-à-dire, il y avait un groupe de gens qui disaient, nous sommes, comment ils appelaient encore? Les journalistes, comment ils appelaient ça encore? Ça pourra venir peut-être. Donc, c'est-à-dire, des journalistes, pas combattants, mais des journalistes, je ne sais pas moi, vous voyez, ça. Toute cette écurie-là, je ne sais pas si je dois citer leur nom.
On n'a pas besoin de citer
leur nom. Mais en tout cas, ils disent, nous sommes des journalistes, je ne sais pas, résistants, quelque chose comme ça, là. Et quand vous suivez leurs propos, c'était pour, justement, prendre position. Mais, chers collègues, nous on se retrouvait pas parce que ce sont des amis avec qui on a évolué.
Vous voyez,
mais après quelques temps, comme on dit, le temps c'est un bon conseiller. Il se retrouve là dans tel parti politique ou bien dans tel genre.
Exactement. Serge Boïka, parlons un peu l'équité aussi la transparence. Quels sont, d'après vous, Serge, les avantages potentiels d'une régulation accrue des médias sociaux pendant les campagnes électorales du point de vue encore une fois transparence et de l'équité?
Merci une fois de plus. En termes d'équité, je pense que les avantages, c'est d'abord le climat social. Cette régulation des médias sociaux entraîne de facto une paix sociale. Vous savez, la campagne électorale dans un pays comme la République démocratique du Congo, où le vote, j'insiste, est toujours un peu à caractère ethnico-tribal, les médias sociaux jouent un rôle très important dans le fond. La haine, faut pas discussion de la méfiance, en fait. La méditation.
On n'entend pas très bien Serge, hein. On n'entend pas très bien Serge, ouais.
Voilà,
là on entend bien. Michel, on peut diminuer un peu le volume de notre carte. Ouais, allez-y Serge, on vous écoute.
Oui, je disais que la régulation des médias sociaux dans un contexte de campagne électorale entraîne d'abord la paix sociale. La paix sociale est de facto un climat de confiance entre candidats, mais aussi entre électeurs. Vous savez, dans un pays continent comme la République démocratique du Congo, où le vote est encore à caractère ethnico-tribal, s'il faut les dire ainsi, les médias sociaux, certes, nous n'avons pas une diffusion de la connexion partout dans le pays, mais le message véhicule un peu plus vite. Vous avez pratiquement à l'échelle présidentielle qui vont se dire que nous devons communiquer. Et vous ajoutez à cela les différents candidats au niveau législatif. Alors, cette sorte d'instrumentalisation qui peut surgir à la suite des différentes communications ne peut avoir des effets sur la paix sociale, ne peut entraîner de la division dans les chefs ou entre communautés que s'il y a une certaine nonchalance dans les chefs des autorités. Du coup, les autorités ont la lourde responsabilité de réguler, de taper du poing sur la table dans ces contextes pour essayer un peu d'encadrer cette campagne électorale, pour essayer un peu d'encadrer ces jeux électoraux, pour ne pas que l'on sorte du cadre du bon sens et que la campagne électorale ne soit qu'une suite logique pour une compétition assez saine et beaucoup plus apaisée.
Merci beaucoup, Serge. Un travail.
Serge Bouyk a raison, a totalement raison, parce que vous savez, un petit message dans les réseaux sociaux peut, si vous voulez, enflammer, voyez, abîmer les processus.
Complètement.
Voyez, et on a vu des cités, des villages qui se sont entretués. Si vous regardez les messages des commanditaires, vous allez voir, rien qu'à travers les messages comme ça, bien des vidéos, parfois tronquées, ça peut, vous voyez, basculer et amener les gens dans
ouais, absolument. Non, mais c'est tout à fait vrai. C'est pour ça que, quelque part, il faut arriver à voir et surtout à sanctionner. Une fois que c'est arrivé, tu vois.
Quand il y a sanction, on sait qu'il y a.
Oui. Ouais. Mais aussi du côté du public, il faut éduquer le public.
Ah, l'éducation, c'est aussi.
À pouvoir discerner qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Remonter toujours à la source pour savoir ce message, il vient d'où, tu vois. Avant que je ne commence à le propager, il faudrait que je sache il vient d'où, tu vois. Parce que ça peut être du fake news, on ne saura jamais, tu vois.
Et surtout. Antoine, vous étiez en train de parler de 18.
Il y a 18 réseaux sociaux, je peux vous citer, vous savez, je peux vous citer même le nombre des utilisateurs, vous voyez. Facebook a plus de 3 milliards, vous voyez, d'utilisateurs. WhatsApp, plus de 2 milliards, vous voyez. YouTube, plus de 2 milliards. Instagram, plus de 2 milliards. Nous avons même ce que beaucoup de gens n'utilisent pas. WeChat, plus d'un milliard. TikTok, plus d'un milliard. Facebook Messenger, 988 millions d'utilisateurs. Snapchat, 750 millions, Telegram, 700 millions. Il y a ce que j'apprends maintenant, Douyin.
Ça, je ne sais même pas.
Douyin. Je vais appeler ça D-O-U-W. Quoi,
ça sonne même comme un gâteau.
Douyin, 6 millions, vous voyez. Il y a QQ. Vous avez déjà vu ça?
Non,
QQ, c'est un réseau social.
Non.
574 millions.
C'est beaucoup de gens.
Il y a aussi Sina Weibo. Entendu parler?
Tout ça, c'est au Burkina Faso.
Je ne sais pas, Sina Weibo, 573 millions. Il y a aussi Kyuashu, je ne sais pas si c'est en Chine ou
ça. C'est Guangzhou.
Kyuashu, c'est plus de 500 millions.
C'est quand même beaucoup de gens.
Il y a quand même Pinterest aussi. Entendu parler? Pinterest, 450 millions. Twitter, 450 millions, Reddit, 430
dans
millions.
Dans les Quanchu, là, c'est plus que Twitter.
Il y a finalement même le Quora. Le Quora.
Quora, non, ça, c'est Quora, pas vrai, Antoine.
Je connais Quora. Quora, je connais.
Ah, you regard Quora.
Alors, imaginez-vous la régulation de tous ces réseaux sociaux. C'est un travail fastidieux. C'est une industrie.
Ça ne dépend pas de pays en pays, de chaque gouvernement, de voir est-ce qu'il y a moyen. Bon,
ce que vous avez dit, c'est fondamental, Roger Montour. Une fois j'étais en Chine, le Facebook que nous utilisons, en Chine ça n'entre pas.
Non.
Ça fonctionne. Ils ont leur Facebook à eux. C'est la régulation.
Oui.
Ah bon? Et la Chine ne laisse pas que ces informations soient utilisées par n'importe qui.
Mais alors quand les États-Unis veulent dire non, TikTok, vous voyez, tout le monde panique là.
Voyez un peu. C'est un débat.
Je te dis aussi, à Dubaï par exemple, WhatsApp, tu ne peux pas faire des appels. Tu vois les appels comme on fait sur WhatsApp, tu ne le fais pas. Tu peux utiliser autre chose, mais WhatsApp, tu peux faire une vidéo, tu peux envoyer un audio. Tu vois, quand tu fais un audio à quelqu'un, tu lui envoies et lui te répond par audio. Mais l'appel direct comme ça, à Dubaï, ça passe pas.
Et pourquoi d'après toi?
Contrôle.
Le contrôle. Mais après tout ça, ces choses-là.
Quand vous débarquez à l'aéroport.
C'est la régulation, justement.
La régulation,
quand vous débarquez à l'aéroport, quand on met le tampon sur votre passeport, l'État vous donne une puce pour mettre dans votre téléphone gratuitement. Pourquoi? Peut-être pour écouter ce que vous allez dire.
Ah, voilà.
Wow. Voilà. Serge veut réagir quand même. Serge, qu'est-ce que Serge pense de tout ça?
Dans notre contexte, en République démocratique du Congo, j'estime que l'État n'agit pas assez. Le contrôle, oui, les textes sont là, mais le jeu n'est pas vraiment surveillé, contrôlé, parce que il subsiste une sorte de fanatisme, une sorte de favoritisme, ou soit un peu de négligence de la part de l'autorité, je ne sais pas, une sorte de largesse. Le jour où l'État va prendre en main ses responsabilités de sanctionner sévèrement les journalistes, ce que M. Antoine Roger, Antoine Boulamba a parlé, journalistes engagés, font, c'est pratiquement des incitations, des déclarations qui sont parfois gratuites, mais l'État a vraiment cette lourde responsabilité, une fois de plus, de pouvoir encadrer la régulation, d'encadrer plutôt l'usage des médias sociaux dans ces contextes. Et nous n'avons qu'à voir les différents messages qui sont déjà diffusés au niveau de banderoles, au niveau de pancartes des différents candidats.
S'impose.
S'impose. Et donc, vous pensez, Serge Boyka, que s'il y a sanction, la situation va peut-être changer?
Effectivement, si l'État enlève un peu cette part des largesses
qui
dégage pour les uns et de fermeté pour les autres, moi, je pense qu'il y aura un changement de comportement. La mentalité et de la perception du développement du pays. Nous n'avons qu'à voir les messages qui sont diffusés au niveau des différentes banderoles affichées ici et là.
Ouais.
Vous sentez un peu de la superficialité pour ce qui concerne les questions tant épineuses que sont les élections.
Les élections, en parlant de ce que Serge est en train de dire, Antoine Roger Boulamba, il y a aussi ce côté de tribalisme où certains utilisent ces réseaux sociaux pour...
inciter à la haine tribale. Vous savez, c'est condamné. Vous savez, quand on utilise... D'ailleurs, tout message placé dans un média, en tout cas, vous pouvez inciter à la haine off the record, vous n'aurez pas de problème. Mais dès que vous l'amenez dans les médias, que ce soit les réseaux sociaux, c'est condamnable et c'est contrôlable. Mais ce que j'ai vu notre ami a abordé, il est allé même... Il est allé dans des banderoles, des affiches. Malheureusement, mon frère, en République démocratique du Congo, le CESAC n'arrive pas encore à contrôler ces médias-là.
Pourquoi pas?
Oui, non, par manque de moyens. Je ne sais pas si les choses ont évolué. Peut-être. Oui, à notre époque, ou bien même jusqu'à présent, je crois, à preuve du contraire, on dirait le CESAC ne régule que les télévisions, dont les médias traditionnels. La télévision... La radio et la presse écrite. Et pour les réseaux sociaux, je ne sais même pas. Effectivement, des réseaux sociaux, parce que vous savez, c'est difficile. Mais quand Roger Mountou essaie de diffuser quelque chose sur Instagram ou bien sur Facebook, on connaît Roger Mountou, on peut le poursuivre. Mais si par une personne qu'on ne connaît pas, comment on peut retrouver cette personne-là?
Il y a moyen. Bon, enfin, peut-être que les États devraient avoir des avocats dans les pays où... peut-être pour traduire les gens en justice et les sanctionner et faire payer des amendes lourdes comme ça, ça décourage. Les gens arrêtent de commencer à raconter les bêtises peut-être dans un premier temps.
Je voulais dire aussi quelque chose, Roger Mountou, parce qu'il a parlé des avocats. Mais vous savez, le contexte de la République démocratique du Congo, comme de beaucoup de pays, c'est gangréné par la corruption. Vous savez, on doit considérer cela parce que tel a posé un problème qui mérite une sanction, mais vous allez voir qu'il ne sera pas sanctionné. Qu'est-ce qui se passe? C'est que justement notre ami Boyka est en train de dire. Vous voyez, qu'on pouvait le sanctionner, mais parce qu'il y a la corruption, les gens s'appellent et
Cette note-là, c'est une bonne note d'en finir. C'est la corruption. Maintenant, même. Vous avez tout dit, Antoine Roger Boulamba. Merci beaucoup, Antoine Roger Boulamba, d'être passé. On a besoin de vous souvent dans RMC.
Merci beaucoup,
à vous voler souvent.
Je viendrai sans problème, merci beaucoup.
Merci beaucoup à Serge Boyka pour le temps que vous avez accordé. Hein, et bonne nuit là-bas chez vous, au Maroc. Hein. Merci, Serge. Super.
Merci.
Super. C'était un grand plaisir, en tout cas, de voir Serge Boyka avec nous. Merci à Michel Joseph. Merci à Nelson. Michel, qui a fait notre vidéo ce soir, hein? C'est Tian Wang. Ah oui, c'est vrai. Merci beaucoup à Tian Wang. Et bien sûr, merci à nos amis qui nous ont suivis partout dans le monde. Et on continue bien sûr demain et vendredi pour finir avec ce sujet. Et merci encore une fois à nos amis qui nous captent d'ailleurs ce soir. En ce moment, ils m'ont dit de leur faire un grand coucou. Ils sont à Bukavu, à Goma.
nos amis qui nous captent en Ituri aussi. Merci beaucoup à eux. Je salue plus précisément parce qu'ils m'ont écrit sur WhatsApp ici. Je vais lire quelques noms. Eva à Dakar, on te fait un grand coucou bien sûr. Elle ne rate jamais cette émission. Et on dit merci à Liro qui nous capte aussi à Goma. Merci à Samba qui nous capte à Lunda Norte sur Internet bien sûr. Merci infiniment à Moindo Mpongo qui est un acteur qui nous capte aussi ici aux États-Unis et bien sûr à Billy Ndambi, à toute la famille Ndambi, à Gloire Monga. Merci beaucoup à eux. Restez à l'écoute de RM Show. On se retrouve bien sûr demain. Merci encore une fois à Michel Joseph, à Nelson et à Tian Mwanga. On s'est dit bien sûr, comme d'habitude les amis, merci pour tout. Et notre sujet continue demain. Je ne peux que vous dire, comme d'habitude, God bless, peace, Africa.